Bonjour et bienvenue, c'est Bruno, et vous écoutez Easy Reader.
I want to reach you emotionally first. I want to make your flesh creep, I want to make your pulse race, I want to make your eyes tear up.
Je suis devenu romancier parce qu'un jour, quand j'étais gamin, j'ai ouvert un livre de Stephen King, que j'ai trouvé ça formidable d'avoir peur, que j'ai lu tout Stephen King, que j'ai eu très peur et qu'à un moment j'en voulais plus, et je me suis mis du coup à écrire des histoires qui font peur.
Easy Reader.
Bienvenue, bienvenue, mettez-vous à l'aise. Dois-je vous rappeler le concept de l'émission ? C'est toujours utile. Auteur connu ou inconnu, oublié ou inoubliable, à chaque épisode, vous découvrirez avec moi le ou les premiers chapitres de livres fantastiques, d'horreur ou d'autres styles suivant mon humeur. Et je l'espère, je vous donnerai envie de plonger dans la lecture de ces ouvrages. Afin de rendre tout cela plus intéressant, je ne donnerai ni le titre ni l'auteur, et ce sera lors de l'épisode suivant que nous découvrirons tout ça avec un petit résumé et un avis. Parlons de l'épisode précédent et de l'événement traumatique de Buddy. Il s'agissait d'Abyss, écrit par Orson Scott Card, un auteur américain. Auteur principalement de sagas de science-fiction, nous le connaissons principalement pour son roman La Stratégie Ender qui fut adapté en film en 2013. Il officie également dans l'univers du jeu vidéo, il a notamment travaillé chez LucasArts, sur Loom, The Dig et sur le cultissime Monkey Island. Nous lui devons d'ailleurs les duels d'insultes. Récemment, il a participé à Shadow Complex et Dragon Age 2. Récompensé par presque 20 prix pour ses ouvrages, il est intéressant de découvrir qu'il s'occupa de la novélisation du film Abyss. Abyss, un des monuments de James Cameron, avant le choc Terminator 2. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le film, de quoi ça parle ? Nous y découvrons DeepCore, première plateforme sous-marine de forage, dirigée par Buddy. Celle-ci va être réquisitionnée par l'armée pour enquêter sur la disparition d'un sous-marin nucléaire. Mais bien vite, bataille d'ego, folie des profondeurs et surtout rencontre improbable à 3000 mètres de fond vont nous mener à des révélations incroyables. La novélisation est très intéressante, bien plus que ce qu'on pouvait trouver à l'époque. Nous sommes loin d'une simple adaptation du scénario. Ici, les personnages sont bien plus travaillés, bien plus développés, de nombreux éléments y sont mieux intégrés et surtout Orson Scott Card est parfait pour l'exercice. Son écriture, ses thématiques SF se collent parfaitement à l'univers de Cameron et font véritablement de l'ouvrage une extension du film. D'ailleurs, pour les fans, ceux qui comme moi attendent une sortie Blu-ray, je ne peux que vous recommander de plonger dans l'abysse à nouveau, mais cette fois-ci avec cette version. Mais avant de quitter les fonds marins, une petite dédicace à Benjamin, un amoureux inconditionnel de l'océan, de tout ce qu'on peut y trouver et en particulier des requins. À présent, il est temps de s'installer dans le canapé pour découvrir un nouvel ouvrage, de baisser la lumière, d'ouvrir le roman et de commencer la lecture. Cela arriva sous terre, la nuit, dans le silence, dans cette immense salle insonorisée où ça clignotait et cliquetait doucement. L'ordinateur qui se trouvait là était le plus rapide et le plus puissant existant alors au monde. Et seul devait en principe le surpasser le NASF que la NASA projetait de construire à Palo Alto, Californie. Il avait coûté des millions de dollars à Kilian. Son temps d'accès était de 12 nanosecondes et demi, 12,5 milliardièmes de seconde. La capacité de sa mémoire centrale, renforcée par 3 douzaines d'unités de stockage créé DD19, approchait 300 milliards de bits. Il pouvait réaliser environ 240 millions d'opérations différentes par seconde. On l'avait baptisé Fozzie. Il était tellement ultra perfectionné qu'il pouvait parler avec une vraie voix humaine, en imitant par exemple Cary Grant dans Philadelphia Story, Judy Garland dans A Star Is Born, ou Dustin Hoffman dans Macadam Cowboy. Et mieux que cela, si on lui posait une question stupide, il était capable de réponses encore plus stupides. Plus ultra perfectionné que cela, c'est difficile. Et naturellement, quand cela arriva, il parlait avec Jimbo Farrar. Ce fut à Berkeley, l'université de Californie, que tout commença. L'idée consista à faire venir des flopés de gosses au centre de recherche sur l'informatique. On les fit asseoir devant des claviers, un clavier par gosse avec un écran cathodique de contrôle. On leur annonça qu'ils avaient le droit de faire tout ce qui leur passait par la tête. Après leur avoir expliqué comment, en tapotant le clavier, ils pouvaient faire apparaître des trucs sur l'écran. On avait imaginé que, s'il se trouvait un ou plusieurs génies parmi eux, ce serait un bon moyen de les repérer. Pour une idée idiote, c'était une idée idiote. Au début de l'expérience, on choisit des garçons et des filles de 10 à 12 ans, par classe entière, à raison de 2 heures par classe. Jusqu'au moment où la fondation Kilian s'en mêla. Elle investit dans le programme des millions et des millions de dollars, déductibles fiscalement. En échange, le vieux Joshua Kilian exigea 3 choses. D'abord, des enfants plus jeunes. Il précisa entre 4 et 6 ans. Et tant mieux s'il ne savait ni lire ni écrire. Ensuite, il voulut étendre le programme à l'ensemble des États-Unis. Partout où il y avait des enfants ad hoc et un terminal d'ordinateur, celui d'une banque, d'une compagnie d'assurance, d'une administration ou de n'importe quoi. On choisit donc des classes maternelles au nord et au sud, à l'est et à l'ouest du pays, dans des coins perdus et dans des grandes villes, dans les zones à haut revenu et dans les quartiers noirs, indiens ou portoricains, au hasard. Enfin, le vieux Kilian tint à ce que les résultats fussent transmis à un ordinateur central situé sous terre, dans le Colorado. Cet ordinateur central ultra perfectionné était utilisé par Kilian Incorporated pour ses propres activités, et il travaillait à façon pour d'autres firmes, voire pour le gouvernement. Il fut en outre chargé de collationner, de trier, de comparer tout ce que ces chers petits anges pouvaient inventer, et donc de vérifier si, oui ou non, on avait découvert un génie, et d'annoncer la bonne nouvelle le cas échéant. Là-dessus, au moment où le programme venait d'être mis au point, le vieux Kilian mourut. Il laissa 1 ou 2 milliards de dollars et un testament prescrivant de la manière la plus impérative que l'opération chasseur de génie devait se poursuivre pendant 15 ans après sa mort. Elle se poursuivit, dans l'indifférence générale. Les résultats étaient médiocres. Fauzi mit en mémoire et étudia les élucubrations de dizaines de milliers d'enfants. L'immense majorité de ceux-ci ne comprit même pas ce que l'on attendait d'elle. Pourtant, 3 ou 4 douzaines de gosses établirent triomphalement que 2 et 2 font 4. Une élite poussa jusqu'à 2 fois 3 font 6. Quelques-uns firent apparaître avec enthousiasme des ronds et des carrés. Un autre dessina même un triangle. Le triomphe. On se congratula, on avait découvert un génie, un vrai. Mais on découvrit rapidement que le prétendu génie souffrait d'un défaut de vision. Pour lui, même un ballon de basketball était triangulaire. Les mois passèrent, les héritiers du vieux Kilian se désintéressèrent du chasseur de génie. Sans cette saloperie de clause impérative que le vieux avait mise dans son testament, on aurait purement flanqué en l'air tout le bazar. Faute de mieux, on rogna tant qu'on put sur les crédits alloués à l'opération. Et bientôt, face à Fauzi, il ne resta plus qu'un seul et unique informaticien. Celui-là même qui avait baptisé Fauzi, Fauzi. Un type jeune et extrêmement gentil appelé James Jimmy Jimbo Farrar. Et encore ne venait-il que le soir, après le départ d'informaticiens ordinaires faisant travailler Fauzi sur des programmes sérieux, après en avoir lui-même terminé avec son travail de professeur assistant à l'université de Denver, parce que 200 dollars par semaine sont toujours bons à prendre, et que ça lui plaisait bien de discuter sous terre, la nuit, dans le silence, dans cette immense salle insonorisée, où ça clignotait et cliquetait doucement avec Fauzi. Voilà pourquoi Jimbo Farrar, fatalement, était seul et depuis des mois, quand cela arriva. À ce moment de l'histoire, Jimbo Farrar est âgé de 24 ans et à 4 pattes. Il n'est pas encore marié et il ne se mariera avec Anne Morton que l'année suivante. Et le premier de ses 2 futurs enfants ne naîtra que dans 17 mois. Physiquement, il est grand, très grand même. 2 mètres et 4 centimètres exactement. Tout en os. Rien d'un athlète. Plutôt l'air de n'avoir pas fini de grandir et ne pas savoir quoi faire de ses kilomètres de bras et de jambes. Quand il réfléchit ou écoute quelqu'un, il a tendance à se voûter un peu. Il penche alors légèrement sa tête sur le côté avec une expression amicale et attentive qui comble de joie son interlocuteur, convaincu de subjuguer Jimbo par le charme de sa conversation. En réalité, au même instant, Jimbo est ailleurs et pense à tout autre chose. Il est blond-châtain, il a des yeux bleus clairs avec de longs cils sombres qui lui donnent un air très doux, et il est extraordinairement intelligent. Son quotient intellectuel est bien au-dessus de 160. À 110, on n'est déjà pas bête. Il a l'air incroyablement gentil. Il est à 4 pattes parce qu'il a perdu une roue de locomotive et la cherche. Son train électrique a une longueur de voie de 668 mètres et avec un écartement entre les rails de 2,5 cm. Sur le circuit, 11 trains circulent en même temps. Leurs évolutions sont réglées par Fauzi. Le 12e train est arrêté à cause de la roue qui s'est détachée et a probablement filé sous une imprimante. On est le 18 juin 1971 et il est 10h du soir quand ça arrive. Moi, personnellement, moi-même, je n'en ai rien à foutre, dit Fozzie. Mais le wagon de queue de l'express Montréal-Ténérife est sur le point de se décrocher. Devrait faire quelque chose, mec. À ce moment-là, Fozzie parlait avec la voix de Louis Armstrong dans Hello Dolly. J'arrive, dit Jimbo. Il venait enfin de repérer la roue de la locomotive. Elle avait glissé sous l'un des écrans sur lesquels, au même instant, s'inscrivaient les résultats d'une école maternelle du Nouveau-Mexique. Et il y a également quelque chose qui ne va pas dans la loco du Stockholm Honolulu, à l'entrée du tunnel du Saint-Gothard. Baisse irrégulière de tension dans les caténaires. Ce foutu Stockholm Honolulu n'a jamais marché. Jimbo Farrar se mit à plat ventre, allongea le bras, récupéra la roue, se redressa. Jimbo, arrête cette saloperie de train et qu'on n'en parle plus. S'agit pas de ça, mec. Jimbo replaça la roue sur l'essieu minuscule. Jimbo, merde ! L'essieu était faussé. Se passe quelque chose, mec. La voix de Fozzie était maintenant celle de Marilyn Monroe dans Bus Stop. Jimbo posa l'essieu et la roue. Il pensait à Anne, qu'il avait oublié de rappeler. Je vais me faire encore engueuler, c'est sûr. Au Nouveau-Mexique, dit Fozzie Marilyn. Une ville appelée Taos, école maternelle, Kit Carson, classe B. Jimbo hésitait. Appeler Anne maintenant ou non ? Il consulta sa montre. 10h03. Institutrice, Linda Jones. Nombre d'élèves ayant suivi l'expérience, 17. Âge de l'élève, 4 ans, 9 mois et 11 jours. Taille, 98 cm. Poids, 21 kg. Écrase, dit distraitement Jimbo. Grappe 11, mec. Terminal 18. Jimbo marcha vers le téléphone. Un autre triangle, Fozzie. Son ton était nettement sarcastique. Signons non répertorié, dit Fozzie avec la voix d'Humphrey Bogart dans le port de l'angoisse. C'est vachement mystérieux, mec. Vachement. La main de Jimbo se trouvait déjà sur le récepteur téléphonique. Elle s'immobilisa. Jimbo balançait entre la décision d'appeler Anne et celle de consulter l'écran 18. L'affaire du triangle remontait à 6 mois déjà. Depuis, rien. Deux cercles et trois rectangles. Si l'on pouvait appeler ça des cercles et des rectangles. Chasseur de génie n'était qu'une vaste fumisterie à laquelle le vieux Kilian avait cru, et le vieux Kilian était mort. Jimbo se retourna lentement. Devant lui, 60 mètres d'une salle aseptisée, muette, inhumaine, et des dizaines d'écrans cathodiques qui, à ce jour, n'avaient jamais reproduit que des gribouillis puériles. Et ça va continuer, Fozzie. Toi, y en a fou la tête. Intellectuel, s'exclama Fozzie avec la voix de Fozzie dans le Muppet Show. Mais mind tes fesses, mec, c'est du sérieux. Grappe 11, terminal 18. Le cerveau de Jimbo Farrar, un tiroir se ferma, un autre s'ouvrit. Il oublia Anne et le rapide New York-Melbourne qui, à la même seconde, doublait le Stockholm Honolulu à l'entrée du Saint-Gothard. Le QI aux environs de 160 monta en ligne. Son œil bleu alla chercher et fixa les signaux non répertoriés. Son œil s'ébahit, se figea. Un brusque frisson lui parcourut le corps et il demanda. « Et ça veut dire ?»« Que dalle !» répondit Fozzie. « Ça veut rien dire du tout, mec. » L'écran était couvert sur toute sa surface. Deux points et deux traits placés n'importe comment et qui ne ressemblaient à rien. Fozzie envoie la tête du môme qui a fait ça. Un écran voisin s'alluma, un visage d'enfant apparut. Cheveux noirs, yeux noirs, narines un peu dilatées, teint bistre. Ce genre d'expression que l'on a sur les photos d'identité. Rien de particulier dans les prunelles, mi-timide, mi-rêveuse. Sûr que c'est ce morveux qui a fait ça ? Affirmatif, mec. Date et heure de l'enregistrement ? Ce matin, 9h28, heure locale, Mountain Time. Il aura gribouillé n'importe quoi. Mais je sais bien que c'est faux. Des clous, mec, consigne 16. Au cas où le sujet parvient à dessiner quelque chose, on répète l'expérience 30 minutes plus tard. Consigne 16 respectée. Et il a refait la même chose, 30 minutes plus tard. Affirmatif, mec. Un temps, Jimbo ferma les yeux, les réouvrit. Nombre de signes, Fozzie ? Un centième de seconde de réflexion, puis Fozzie annonça. 108 traits, 98 points. Silence, un inexplicable sentiment de malaise envahissait Jimbo. Jimbo ? Ouais. Et c'est pas tout, mec. D'autres arrivent. Toujours du Nouveau-Mexique ? Négatif. Nouveau frisson qui secoua Jimbo tout entier. Vas-y, dit Jimbo. District de Columbia, Washington, école maternelle. Stop, Fozzie. Un temps. Fozzie annonce simplement les états ou les villes s'il y en a deux dans le même état. Ok, mec. District de Columbia, état de New York, état d'Idaho, état du Minnesota, état du Tennessee, état du Massachusetts, état du Nouveau-Mexique déjà cité. Le sentiment de malaise persistait, toujours aussi inexplicable. Des gouttelettes de transpiration perlèrent. Il compta. 7. 7 enfants de 4 à 6 ans. Ça fait bien 7. Affirmative, dit Fozzie. De quoi ai-je peur, pensa soudain Jimbo, car il venait enfin d'analyser le sentiment qu'il éprouvait avec de plus en plus de force. Et c'était bien de la peur, l'intuition que quelque chose d'extraordinaire était en train de survenir. Fozzie, envoie les 7 dessins des 7 gosses sur 7 terminaux voisins, grappe 11. Voilà, mec, comme si c'était fait. C'est fait. 2 secondes. Terminaux 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, grappe 11. Paré à la manœuvre, mec. Jimbo ne bougea pas, il transpirait de plus en plus, n'arrivant pas à détacher ses yeux des 7 écrans. Sur tous, les mêmes points et les mêmes traits. Pourtant, d'un écran à l'autre, des différences. Aucun des 7 enfants n'avait exécuté le même dessin. Ça ne veut toujours rien dire, rien, mec. Jimbo se mit à marcher, il déambula face aux écrans. On voit les têtes des enfants, 7 visages apparurent. 6 garçons, une fille, tous entre 4 et 6 ans. Rien d'exceptionnel, nulle part, même pas au fond des yeux. Jimbo, ces gosses se connaissent-ils entre eux? Ont-ils des points communs, des instituteurs utilisant une méthode identique? Sont-ils nés le même jour, au même endroit? Ont-ils effectué l'expérience à la même heure, le même jour? Négatif, dit Fozzie en réponse. Rien de tout ça, mec. Du moins, en réponse aux dernières questions. Pour le reste, précisa Fozzie, données insuffisantes. Pas de sa faute, mais celle du programme. Pour chaque enfant, on avait accordé à Fozzie qu'un nombre limité de données. Nom et prénom, date et lieu de naissance, poids et taille, adresse personnelle, nom de l'établissement, nom de l'instituteur ou de l'institutrice, date et heure de l'enregistrement. Les 11 trains roulaient toujours, leurs mouvements réglés par une autre partie du prodigieux cerveau de Fozzie, dans l'immense salle déserte. L'idée lui était venue à la seconde même où les 7 dessins avaient fait leur apparition sur les écrans. C'était une idée qui s'imposait. Et elle était juste, il le savait. Il le pressentait avec une certitude absolue. Il ruisselait de sueur. Il s'assit à même le sol face aux écrans, appuya sa nuque, ferma les yeux. Fozzie, oui mec. Ce silence. Dieu de Dieu, pensait Jimbo Farrar, c'est une idée de fou. Imaginez que 7 gosses d'environ 5 ans d'âge, dans 7 écoles différentes, à des milliers de kilomètres les uns des autres. J'attends mec. Imaginez que ces 7 morveux aient pu décomposer, disséquer un même dessin original en peut-être 14 ou 1500 morceaux différents, des points et des traits, et ensuite, dans un deuxième temps, reproduire chacun leur part, le 7e du dessin, environ 200 minuscules composant chacun. Prends ton temps, mec, car l'idée de Jimbo c'était ça, un puzzle. Chaque enfant en détenant un 7e. Chaque enfant étant capable de mettre en place chaque composant de son 7e de puzzle. En aveugle et sans se concerter, probablement sans connaître les 6 autres. Peut-être même, aucun des 7 ne sachant ce qu'il était en train de faire. N'ayant aucune idée du résultat final, n'ayant même aucune idée qu'il y eut un résultat final. Dingue. Les yeux de Jimbo étaient toujours fermés. Il ordonna. On y va, Fozzie. Écran 12 à 18 inclus. Tout sur le 19. On superpose et on va voir ce que ça donne. Ça prit du temps. Au moins une seconde et demie. C'est tout bon, mec. Jimbo n'ouvrit pas les yeux. Tout au plus tourna-t-il son visage en direction de l'écran 19. J'ai vraiment une trouille de tous les diables. Qu'est-ce que ces 7 embryons avaient dessiné? Qu'avaient-ils dessiné ensemble? Que donnait l'assemblage et la superposition de leurs traits et de leurs points? Une maison, un Père Noël, un rhinocéros? Ils n'ouvraient toujours pas les yeux. Le doux ronronnement des trains se croisant, se dépassant, franchissant des viaducs, des tunnels, des aiguillages. Le téléphone sonna. Jimbo Farrar ouvrit les yeux, ce qu'il aperçut le stupéfia. 3 mots suivis d'un point d'interrogation. Where are you? Ainsi s'achève ce moment de lecture. Nous découvrirons bien évidemment l'ouvrage lors du prochain épisode. Mais avant de se quitter, la petite recommandation. Cette fois-ci, il s'agit d'une chaîne YouTube, La Grande Entrée, une chaîne consacrée au cinéma et à la littérature fantastique, sur laquelle vous pourrez retrouver des chroniques de films, de romans, de DVD, de BD et bien plus encore. N'hésitez pas à découvrir, à vous abonner et à partager. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter par les réseaux sociaux, par mail, de ne pas hésiter à partager et mettre un petit avis sur Apple Podcasts, et également à venir faire un coucou sur la page Facebook ou sur Twitter, ça sera un plaisir d'échanger avec vous. C'était donc Bruno qui vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes littéraires, et qui vous dit à très bientôt dans Easy Reader.
une création TALFHO.